Vous êtes sur RTL.
8h. RTL Soir, Vincent Parisot. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous. Oui, RTL Soir, 2 heures d'infos, de reportage, de débat jusqu'à 20h, puisque exceptionnellement, on ne défera pas le monde ce soir. Et à la une, le retour du terrorisme en France avec cette attaque au couteau dans un commissariat à Rambouillet dans les Yvelines. Une fonctionnaire de police a été tuée par un Tunisien, lui-même abattu par des policiers. La piste terroriste est donc clairement privilégiée désormais. L'assaillant a crié à Allah Akbar. Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête. Nous ne devons rien céder face au terrorisme, vient de tweeter il y a quelques instants Emmanuel Macron. Jean Castex lui parle d'un geste barbare contre une héroïne du quotidien. Dans 20 minutes d'ailleurs, nous serons avec la porte-parole de la police nationale, Sonia Fibleuil. Elle sera l'invitée d'RTL Soir. Bonsoir Aude Vernouchiot.
Bonsoir Vincent, bonsoir à tous.
Et dès le début du journal, un témoignage poignant.
Celui d'une collègue de la policière de Rambouillet dès le début de ce journal, et on fera bien sûr le point sur l'enquête. Également, elle a eu un coup de pouce pour les petites retraites agricoles. Et puis le décollage réussi pour Thomas Pesquet à bord de la navette SpaceX, direction l'ISS.
On parle du ciel maintenant, Valérie Quintin, parce que demain, rien que du soleil.
Ah oui, c'est vrai, ce sera vraiment une très très belle journée, du matin au soir, un temps très ensoleillé, un soleil peut-être juste un petit peu voilé dans le courant de l'après-midi. On va noter quelques cumulus en montagne le soir sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes, et puis du vent, un vent assez sensible près des côtes de la Manche. L'OTAN, quant à lui, sévira en midi toulousain. Reste les températures, elles seront encore fraîches au réveil, comprises entre 0 et 14 degrés des Ardennes à la côte basque. Dans l'après-midi, fourchette de 14 à 27 degrés, 21 pour Paris et Marseille, 23 degrés à Annecy, 24 à Rennes et Clermont-Ferrand, 25 à Toulouse et un bon 27 degrés à Bordeaux.
Merci Valérie, à tout à l'heure.
RTL Soir.
Le parquet national antiterroriste s'est saisi du dossier. Une policière a été tuée au couteau dans un commissariat de Rambouillet cet après-midi. Il était environ 14h20 lorsqu'un homme a attaqué cette femme à l'arme blanche avant d'être abattu par les policiers. Guillaume Chies, bonsoir.
Bonsoir.
Que sait-on de l'enquête en cours ?
Alors, on sait que l'assaillant a repéré les lieux. C'est le procureur antiterroriste qui l'a annoncé. On sait également qu'il a attendu qu'une personne entre dans le commissariat pour passer à l'acte. À 14h20, sa victime, une adjointe administrative, revient de sa pause déjeuner. Il profite de l'ouverture du sas pour s'y introduire et lui porter 2 coups de couteau au niveau de la gorge. Les policiers présents sur place répliquent, abattent l'assaillant. Le procureur évoque également des propos tenus au moment des faits. Tout ce modus operandi fait que cette attaque est considérée depuis une heure comme un acte terroriste. L'assaillant, un homme de 36 ans, originaire de Tunisie, était en situation régulière. Il était inconnu des services de renseignement territoriaux. La victime, elle, était âgée de 49 ans, mère de 2 enfants. Elle était employée à l'accueil du commissariat de Rambouillet.
Les précisions de Guillaume Chies du service police-justice d'RTL. Le Premier ministre Jean Castex s'est rendu sur place dans les Yvelines. On l'écoutera dans un instant. Mais d'abord, ce témoignage RTL. Géraldine, une collègue de la policière, a accepté de se confier à Morad Djabari. Elle partageait le même bureau et elle est évidemment sous le choc ce soir.
Stéphanie, c'est une mère de famille. Une personne exemplaire à tout niveau, une collègue irréprochable, travailleuse, toujours prête à rendre service. Elle remplissait bien plus que sa mission. Elle était discrète, toujours le sourire, toujours à l'écoute. Elle connaissait, si vous voulez, c'était un petit peu le... Elle connaissait tout ce qui se passait dans le commissariat. Elle avait 2 filles. On avait affiché les photos dans son bureau, on voyait que ça. Elle aimait ses filles. Et quand elle avait du temps libre, elle aidait son mari à la boulangerie de Thoiry. Elle était gentille avec tout le monde, en fait. Et on travaillait ensemble. Je travaillais beaucoup à l'accueil et j'étais aussi en civil. Donc voilà, ça aurait dû être moi.
Géraldine, une collègue de la victime, un témoignage RTL au micro de Morad Djabari pour RTL. Le Premier ministre s'est donc rendu à Rambouillet. Arrivé il y a une vingtaine de minutes maintenant, il dénonce un acte lâche.
Une fonctionnaire de police a été lâchement assassinée dans des conditions tout à fait dramatiques. Mes premières pensées vont à la famille de cette fonctionnaire et à tous ses proches. Je me suis rendu immédiatement sur place avec Gérald Darmanin pour apporter tout notre soutien aux policiers et fonctionnaires du commissariat, comme vous l'imaginez, très durement éprouvés par ces faits. Et je tiens à rendre hommage aux fonctionnaires de police qui ont immédiatement neutralisé l'auteur des faits.
Jean Castex tout à l'heure à Rambouillet. Emmanuel Macron a lui tweeté il y a quelques minutes du combat engagé contre le terrorisme islamiste. Nous ne céderons rien, écrit le chef de l'État.
Voilà, et on va largement revenir sur ce drame tout au long d'RTL Soir. Je vous rappelle qu'on sera dans quelques minutes avec la porte-parole de la police nationale, Sonia Fibleuil.
Dans le reste de l'actualité, l'épidémie de Covid à 11 jours des premiers assouplissements. La campagne de vaccination s'accélère. Dès demain, vous pourrez recevoir une dose du vaccin Janssen, le quatrième disponible sur le territoire. Il s'agit d'une dose unique. La France a reçu une première livraison de 200 000 flacons. Et puis les bénéfices du vaccin AstraZeneca l'emportent toujours sur les risques selon les experts européens. En France, 5 nouveaux cas de thrombose ont été enregistrés entre les 9 et 15 avril sans entraîner de décès. Au total, 27 cas sur 3,2 millions personnes vaccinées d'après l'ANSM, l'Agence de Sécurité du Médicament.
Déjà en grosse difficulté financière avant la pandémie, les agriculteurs vont recevoir un petit coup de pouce.
Avec la revalorisation des petites retraites dès le 1er novembre, environ 100 euros de plus par mois, le minimum passe donc à 1046 euros net mensuels. Une augmentation bienvenue, mais toujours loin du compte. Valentin Boisset s'est rendu auprès d'un céréalier retraité à Pucey dans l'Essonne.
Sous le soleil, Victor est en plein semis. Devant lui, des dizaines d'hectares de betteraves.
Petit coup de froid qui nous a obligés à ressortir les semoirs, principalement pour les betteraves dans le secteur.
Son père le regarde car ce sont ses terres. Denis est à la retraite depuis seulement 2 ans, après 35 ans de travail dans les champs. Mais depuis, ses revenus ont chuté.
Donc je découvre le salaire d'un retraité. Un agriculteur qui était 35 ans agriculteur, qui a passé sa vie sur sa ferme, il va toucher 800-900 euros. Déplorable.
Alors ce coup de pouce du gouvernement est bienvenu, mais il a fait les comptes. Même 100 euros supplémentaires ne suffiront pas. Chaque mois, sa retraite est entièrement consommée.
100 euros, bien naturellement que ça va faire un ballon d'oxygène.
Si je compte tout ce qui est assurance, le chauffage et tout comme ça, si on est avec la retraite, on a zéro.
Il réalise donc lui-même ses travaux dans la maison et loue 50 hectares de terre à son fils pour s'en sortir.
Moi, je pense plus à nos jeunes. Pour avoir une retraite relativement correcte, on est obligé de céder nos exploitations, de les vendre. Et forcément, on les enterre un petit peu, quoi.
Une question perdure pour Denis. Il ne sait pas encore s'il fera bien partie des retraités concernés par cette revalorisation.
Reportage signé Valentin Boisset pour RTL. On marque une courte pause dans RTL Soir. Dans un instant, ces culottes envoyées par paquet à Jean Castex, symbole de l'angoisse des commerçants qui n'ont toujours pas de date pour la réouverture.
RTL Soir. Vincent Parisot, RTL Soir.
Avec la suite du journal d'Aude Vernuchot. Et donc, au lendemain de la conférence de presse du gouvernement, eh bien, l'incertitude plane toujours sur la réouverture des commerces non essentiels.
Et oui, si la date du 3 mai correspond à la levée de la règle des 10 km, pas de date précise pour la réouverture des magasins, censés intervenir autour de la mi-mai. Les magasins de lingerie réclament un calendrier. Cette semaine, des gérants de boutiques ont envoyé des petites culottes par centaines, par courrier, à Matignon, pour montrer leur détresse. Frédéric Perruche.
Oui, et ce sont même deux culottes en coton que Nathalie Paredes a envoyées au Premier ministre comme une bouteille à la mer pour crier son désespoir.
Nous sommes au bord de la faillite. C'est un cri d'alarme qu'on pousse. On le fait de façon joyeuse et ludique et rigolote en envoyant une culotte, mais derrière, il y a une vraie détresse.
La patronne de lingerie Sylvette à Oulin est au bord du gouffre, étouffée par les charges, les fournisseurs à payer.
Moi, actuellement, j'ai 2400 soutiens-gorge en stock. J'ai 30 000 euros d'échéance ce mois-ci, j'en avais autant le mois dernier et j'en ai 40 000 le mois prochain. Même si j'ai une aide de 10 000 euros, ça ne me suffira pas pour payer mes fournisseurs.
Dans la petite boutique, les stocks sont pleins, 8 000 articles, maillots de bain, culottes, soutien-gorge, mais quasiment aucune vente, malgré le click and collect.
C'est du dépannage, c'est une culotte à 20 euros par jour, alors que d'habitude on fait 2 000 euros sur la même journée. Vous savez, avec nos amis lingères, comment on appelle le click and collect? On l'appelle click and clopinette. Parce que voilà, dans la lingerie, ça ne peut pas fonctionner. Vous voyez là, sur le paillasson, proposer un soutien-gorge à la vue de tous, on peut pas faire de la vente sur le trottoir, c'est impossible.
Nathalie Paredes et ses collègues commerçants demandent une réouverture début mai et des aides d'urgence pour éviter les faillites en cascade.
Frédéric Perruche pour RTL. L'actualité, c'est aussi ce décollage réussi de Thomas Pesquet. Il s'est envolé à bord de la navette SpaceX à 11h49 minutes et 2 secondes précises, heure française.
3, 2, 1, 0.
L'astronaute étant en orbite, il arrivera demain à la Station Spatiale Internationale. Lionel Gendron, le Français, n'en est pas à son premier vol, mais sa compagne s'est dit tout de même très soulagée.
Oui, parce qu'on a beau partager sa vie avec un astronaute, avoir déjà assisté à un lancement, voir une fusée de plus de 500 tonnes s'embraser avec votre conjoint à l'intérieur, ça reste impressionnant. C'était le cas pour Anne. La tension est retombée après le décollage.
C'était magnifique. En fait, je suis encore un peu sous le choc, quoi, parce que c'était un spectacle encore plus impressionnant, je trouve, qu'à Baïkonour. En fait, on s'habitue jamais vraiment. Maintenant, on est soulagés. Moi, la famille, tout va bien. Les amis, on est contents. On a envie de se retrouver et puis de célébrer ça.
6 mois là-haut pour Thomas Pesquet. Sa compagne fait la comparaison avec la crise sanitaire. Beaucoup ont été privés de contact avec de la famille, des amis, parfois un conjoint.
Ça fait quand même un an qu'on voit nos proches par vidéo surtout. Et donc tout le monde a eu un petit entraînement de famille d'astronautes, hein, j'ai l'impression. Et puis maintenant, c'est comme ça, on se parlera à distance pendant 6 mois.
6 mois pendant lesquels Anne va avoir les yeux rivés au ciel et sans doute aussi sur son téléphone portable.
Lionel Gendron, envoyé spécial d'RTL à Cap Canaveral, en Floride.
On en arrive au football avec l'énorme angoisse des supporters des Girondins de Bordeaux après le retrait du propriétaire.
Le fonds de pension américain King Street a décidé hier de ne plus financer le club qui devrait toutefois terminer la saison en attendant un éventuel repreneur. Annonce qui a provoqué une onde de choc. Écoutez la réaction ce matin à Madrid de Zinedine Zidane.
Ça ne me laisse pas du tout indifférent. Et bien au contraire, comme ancien Girondin, ce club m'a apporté tellement de choses. C'est vrai que la situation n'est pas agréable. J'espère que justement il n'y aura pas une rétrogradation au niveau administratif, parce que sur le terrain, j'espère que les Girondins justement vont faire ce qu'il faut pour rester en première division, et je pense que c'est ce qui va se passer. J'ai parlé avec des gens à Bordeaux et j'espère que la situation va bientôt s'arranger à tous les niveaux en tous les cas, et total soutien à ce club de cœur, et je serai toujours derrière de toute façon les Girondins de Bordeaux, ça c'est clair et net.
Des propos recueillis par Mathias Valton. À noter qu'en football, 34e journée de Ligue 1 aujourd'hui, Reims affrontera Marseille à 21h et ce sera à suivre dans RTL Foot. Après le ballon rond, la petite balle jaune qui échappe décidément à Benoît Paire, le tennisman français connu pour ses frasques et son comportement provoquant, il ne pourra pas disputer les Jeux Olympiques de Tokyo. Puni, décision de sa propre fédération, Jean-Michel Rascol.
Comme à Shanghai, avant même la pandémie, Benoît Paire exprime un mal-être sur le court qui s'est amplifié avec les restrictions. Ses dernières déclarations, après un ultime revers la semaine dernière à Monte Carlo, l'ont condamné.
Mais quel est le plaisir à jouer dans des conditions pareilles? Comme si c'était une ambiance cimetière. Alors vous allez tous dire oui, c'est comme la vie normale. Bah, très bien. Bah, moi, la vie normale, je trouve qu'elle est à chier en ce moment. Et là, le circuit, il a chié pareil.
Sélectionnable pour les Jeux, il ne sera pas sélectionné. Décision de la fédération par la voix du directeur technique national, Nicolas Escudé.
On ne pouvait pas se permettre, en tant que fédération et en tant qu'institution, de laisser passer ces choses-là. Parce que là, on représente l'équipe de France, parce que là, on a le maillot France sur le dos et qu'en termes d'éthique, de responsabilité, de conduite, on doit être totalement irréprochable, ce qui n'est absolument pas le cas de Benoît aujourd'hui.
Car Benoît Paire est un récidiviste, ses écarts ne sont pas acceptables, même s'ils ne sont que le reflet d'un homme sincère et fragile.
Jean-Michel Rascol du service des sports d'RTL. La bonne nouvelle ?
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Bah racontez-nous cette histoire.
Ah, l'histoire d'un homme qui a eu beaucoup, beaucoup de chance, Vincent, après une mésaventure à 4300 euros. Oui, c'est la somme qu'il venait de récupérer après avoir vendu sa voiture. Sauf qu'en allant faire ses courses, le Perpignanais perd son portefeuille. Il porte plainte sans grand espoir. Mais un policier, visiblement très bon enquêteur, a visionné toutes les caméras de surveillance du supermarché et retrouvé la trace d'une femme qui avait récupéré le dit portefeuille. C'était juste devant le magasin. Heureusement, elle l'avait gardé chez elle sans toucher au billet vert qu'il contenait.
Waouh, et voilà, forcément tout le monde se dit qu'est-ce que je fais moi si je trouve un portefeuille
moi,
avec
c'est terrible,
4300 euros.
Mais je le prends.
Ben, c'est beau l'honnêteté, c'est beau l'honnêteté. Bon, la vôtre, c'est peut-être à revoir. Merci Aude Vermuchot. Vous revenez à 18h30. Dans un instant, évidemment, retour sur l'information principale de ces débuts de soirée. La police de nouveau frappée par un acte terroriste, très vraisemblablement. Nous serons avec la porte-parole de la police nationale, Sonia Fibleuil, à tout de suite.
RTL Soir. Vincent Parisot, RTL Soir.
On revient évidemment sur l'attaque du commissariat de Rambouillet avec l'invité d'RTL Soir, la porte-parole de la police nationale, Sonia Fibleuil. Bonsoir.
Bonsoir Monsieur Parisot.
Merci d'être avec nous 4 heures environ après cette attaque. Et avant de parler des éléments dont vous disposez, je voudrais tout de même avoir votre réaction, bien sûr en tant que porte-parole, mais en tant que policière, votre réaction après cette attaque mortelle.
Écoutez, en tant que policière, je ne peux vous faire preuve que de vous adresser mon émotion. Mmh. D'ailleurs, je pense que vous le sentez.
Oui.
Je pense à notre collègue, évidemment, du commissariat de Rambouillet, une femme de 49 ans, de deux enfants. Je pense à sa famille, en deuil, à qui j'adresse mes condoléances. Et en mon nom, en celui du directeur général et au nom de toute la police nationale que je représente ici ce soir, je pense également au collègue qui est intervenu courageusement pour défendre sa collègue. Et je pense à tous les personnels du commissariat de Rambouillet. Et à travers eux, c'est à toute la police nationale. Et c'est toute la police nationale qui est en deuil et qui est touchée.
Ouais, et on le sent bien, évidemment, à votre émotion, Sonia Fibleuil. Quels sont les derniers éléments dont vous disposez? Je rappelle que cette attaque, elle s'est produite il y a seulement 4 heures.
Oui, tout à fait. Alors, l'enquête est en cours. Comme vous le savez, nous sommes tenus au secret. Mais ce qu'on en sait, ce que je peux vous en dire à ce stade actuellement, c'est que à 14h20 aujourd'hui, donc une adjointe administrative du commissariat de Rambouillet qui rentrait de sa pause déjeuner dans un geste du quotidien, alors qu'elle se trouvait dans le sas d'entrée, recevait des coups de couteau de la part d'un individu qui lui infligeait des blessures mortelles. Et ce, malgré l'intervention rapide des sapeurs-pompiers. Un brigadier de police, donc de ses collègues, est alors présent au poste et fait feu à deux reprises sur l'agresseur et parvient à assurer sa neutralisation.
Quels sont les éléments qui amènent à penser que c'est un acte terroriste ?
Écoutez, l'enquête débute pour l'instant, effectivement. Le parquet national antiterroriste a saisi la sous-direction antiterroriste de la police judiciaire avec la DGSI, ainsi que la direction régionale de la police judiciaire de Versailles. Et nous devons laisser le temps aux enquêteurs de déterminer, de travailler quels sont ces éléments qui permettent de d'étayer la piste terroriste.
Alors, certains éléments ont été donnés par le procureur. Je pense, apparemment, il est avéré que cet homme avait fait un repérage. Vous avez eu confirmation de cette information?
Je ne peux pas vous confirmer. Comme je vous l'ai dit, l'enquête est en cours et elle se fait sous l'autorité du parquet national antiterroriste.
En tout cas, ce qui est sûr, et vous nous l'avez dit, c'est que cette attaque s'est déroulée au sein même du commissariat, dans le sas d'accès. Ça veut dire déjà qu'on peut entrer armé d'un couteau dans un commissariat?
Je vous rappelle que le métier de policier est un métier dangereux. Je tiens à préciser que 7 policiers, l'année dernière, ont été tués au cours de leur mission. Et je leur rends hommage. On a eu 5 500 policiers qui ont été blessés l'année dernière dans leurs gestes de mission, du quotidien, en tant que policiers. Donc, le directeur général a immédiatement pris et renforcé des mesures de vigilance et a rappelé les consignes de vigilance aux abords des commissariats. Aujourd'hui, je vous rappelle que nous sommes en niveau sécurité renforcé, il y a un risque attentat sur l'ensemble de notre territoire et que les commissariats sont des lieux qui sont ouverts au public, que nous devons les maintenir évidemment ouverts au public pour la protection des citoyens et pour l'accomplissement de ce service public.
Vous voulez dire qu'il y a aussi un risque à sécuriser encore un peu plus les commissariats, ce serait de les bunkériser finalement et de les éloigner du public?
C'est des consignes de vigilance qui sont transmises par le directeur général de la police nationale et qui doivent être renforcées. Mais nous entendons que les commissariats restent ouverts aux citoyens, restent accessibles au public. Et c'est en cela que nous sommes vigilants et que nous devons renforcer notre vigilance.
Ce drame, il rappelle évidemment, et vous y avez fait référence, quelques précédents, notamment évidemment celui d'octobre 2019 à la préfecture de police de Paris, dans l'ensemble de la préfecture. Là, c'était un employé qui avait tué à coups de couteau 3 policiers, un agent administratif. Le risque pour les policiers, c'est peut-être de se sentir trop en sécurité lorsqu'ils sont, j'allais dire, chez eux, au sein même du commissariat.
Nous sommes conscients, en tant que policiers, que tous les jours, nous avons affaire à une dangerosité du quotidien auquel nous faisons face. Il est sûr que dans nos gestes du quotidien, et là je crois savoir que notre collègue rentrait de sa pause déjeuner, nous devons être également vigilants et que nous ne devons pas banaliser cette violence que nous intégrons en tant que telle dans l'exercice de notre mission.
Cette collègue décédée malheureusement était agent administratif, elle n'était donc pas armée. Est-ce que c'est une question qui peut se poser aujourd'hui ?
Les agents administratifs sont des policiers en tant que tels. Ils font partie de la police nationale. C'est en cela que je dis qu'ils sont des policiers en tant que tels. Ce sont des secrétaires, des membres de services d'accueil. Ce sont des personnels qui font fonctionner les rouages du service public de sécurité et qui sont des personnes qui sont en première ligne à qui vraiment nous devons le respect et l'hommage parce que ils font fonctionner ce que sont les commissariats au quotidien. Donc, pour répondre à votre question...
Mais elle a été prise pour cible aussi en tant que policier. Elle était policier, elle a été visiblement prise pour cible en tant que policier. Donc, la question de l'armement de ces personnels administratifs peut-elle se poser ?
C'est surtout la question de la vigilance des personnels qui est en question au quotidien parce que cette dangerosité est rappelée à travers ces faits qui sont tragiques. Donc nous devons absolument renforcer ces consignes de sécurité être vigilants les uns les autres. Vous savez, il y a une très forte solidarité au sein de la police nationale et nous sommes... très réactif lorsque l'un de nous est touché et l'intervention du brigadier qui est intervenu pour neutraliser l'auteur est justement là pour le prouver.
Merci beaucoup en tout cas d'avoir été ce soir invité d'RTL Soir, Sonia Fibleuil, porte-parole de la police nationale, et de nous avoir donné tout d'abord votre sentiment. On a senti toute votre émotion et les premiers éléments de l'enquête sur laquelle évidemment on va largement revenir tout au long de cette soirée. Merci Sonia Fibleuil. On va marquer une courte pause. Dans un instant, le rappel de l'info, la météo complète pour ce week-end et la semaine prochaine. Et puis le deuxième invité d'RTL Soir ensuite. Alors ce sera beaucoup plus léger. On sera avec Éric Antoine, le plus perché des magiciens. Et pas seulement pour sa grande taille. A tout de suite.
RTL Soir.
RTL. Il est 18h30.
Vincent Parisot, RTL Soir.
Le rappel de l'info, c'est avec vous, Aude Vernuccio.
Elle s'appelait Stéphanie, elle avait 49 ans, mère de deux enfants. La policière a été tuée au couteau dans le commissariat de Rambouillet où elle travaillait en début d'après-midi. L'assaillant présumé est un homme d'origine tunisienne en situation régulière. D'après les premiers éléments de l'enquête, il aurait crié « Allah Akbar » au moment de son acte. Il a été abattu par la police. Le parquet national antiterroriste est saisi. Une policière lâchement assassinée a réagi Jean Castex. Le Premier ministre s'est rendu sur place peu avant 18h aux côtés du ministre de l'Intérieur. Le chef de l'État a rendu hommage à la victime sur Twitter, parlant des terres déjà meurtries des Yvelines. Face au terrorisme islamiste, nous ne céderons rien, ajoute Emmanuel Macron. Et on écoute tout de suite la réaction de Jordan Bardella, le vice-président du Rassemblement National.
L'histoire se répète encore et toujours avec à chaque fois les mêmes profils, les mêmes modes opératoires et la même impuissance de la part de l'État. Or, nous ne souhaitons pas nous résoudre à voir notre pays défiguré par le fondamentalisme islamiste. La réalité, c'est qu'on ne fait rien, si ce n'est pas grand-chose. Et j'aimerais aujourd'hui que le gouvernement nous explique comment est-ce qu'un clandestin tunisien qui est arrivé en 2009 sur le territoire national a-t-il pu être régularisé en 2019 après tout ce que nous avons connu et vécu dans notre pays. Il y a un an, quasiment jour pour jour, il y a eu à Romans-sur-Isère un attentat qui a été commis par un réfugié soudanais. Au mois de septembre, un Pakistanais qui a attaqué au hachoir les locaux de Charlie Hebdo, Samuel Paty et le Tchétchène à Nice. Trois Français qui ont été égorgés par un Tunisien. Donc on voit bien que la politique migratoire totalement anarchique remet en cause la sécurité des Français. Et il faut évidemment y mettre un terme, décréter un moratoire sur l'immigration et faire en sorte que jamais un clandestin qui arrive en France ne puisse espérer autre chose qu'une expulsion et que l'application de la loi.
Jordan Bardella au micro de Jacques Serret pour RTL. Et puis sur le front de l'épidémie, un quatrième vaccin disponible en France dès demain. Vous pourrez recevoir une dose du Johnson & Johnson, une dose unique. La France a reçu une première livraison de 200 000 flacons.
Merci beaucoup Aude Vernuccio et on vous retrouve tout à l'heure après le journal de 19h pour ces têtes il y a un an.
Il y a un siècle.
Voilà, à tout à l'heure. On va maintenant parler du ciel parce que les nouvelles sont plutôt bonnes en tout cas. Pour le week-end à venir, un week-end chaud et ensoleillé, c'est ce que vous nous annoncez et ce que vous nous promettez, Valérie Quintin.
Oui, exactement. On va avoir un très très beau week-end. Alors oui, on aura demain soir peut-être quelques nuages sur les Alpes et puis dimanche soir, 2-3 ondées sur les Pyrénées. Mais sinon, c'est du soleil partout, un soleil juste à peine voilé. Un petit peu de vent quand même demain le long des côtes de la Manche. Et puis le vent d'autant va sévir en midi toulousain. Dimanche, on aura un vent un petit peu plus sensible sur la moitié nord qui ne va en rien rafraîchir l'atmosphère puisque de toute façon, les températures seront très clémentes. Alors demain matin, ça va picoter un petit peu. On va partir de 0 degré à Charleville-Mézières pour atteindre 14 degrés à Biarritz dans l'après-midi. Fourchette de 14 à 27 degrés, 16 à Lille, 19 à Nice, 21 à Paris et Reims, 23 à Dijon, 25 à Grenoble et Avignon, 27 degrés demain pour Angoulême et Mont-de-Marsan, températures qui baisseront un tout petit peu en moyenne pour l'après-midi de dimanche.
Mais je crois que ce ne sera finalement qu'une parenthèse, ce beau week-end. La semaine prochaine s'annonce finalement assez moyenne.
Oui, ça va se gâter assez rapidement dans la moitié sud notamment. Dès lundi et pour toute la semaine pratiquement, un ciel chargé de l'Aquitaine à la Méditerranée et aux Alpes. Des températures qui vont amorcer la descente. Mais pendant ce temps-là, quand même, sur les deux tiers nord, il va faire beau. Lundi et mardi. Mercredi, un régime d'averses entrecoupées d'éclaircies pour tout le monde. Et puis pour la deuxième partie de semaine, on va retrouver un temps ensoleillé mais frais sur les deux tiers nord du pays. Des orages du sud aux Alpes.
Merci Valérie. On fera un nouveau point tout à l'heure, après 19h. Dans un instant... 2m07 de talent, d'humour et de délire. Il est notre magicien préféré. Et il fait quand même un pied de nez au confinement avec son show digital et interactif qui sera diffusé mardi soir en direct sur la chaîne Gulli. Éric Antoine est l'invité d'RTL Soir dans un instant.
RTL Soir. Vincent Parisot, RTL Soir.
Connexion, c'est un spectacle de magie de ouf, mais digital. On va penser tous la même chose en même moment. Les choses vont arriver chez vous et chez moi.
Ah ouais! Dis donc, t'as une sacrée descente, hein? C'est impressionnant.
Parfois, je me demande si j'ai vraiment besoin d'un public vu le nombre de personnes qu'il y a dans ma tête.
Invité d'RTL Soir, donc, Éric Antoine, bonsoir.
Bonsoir Vincent, ravi d'être avec vous.
Ben, nous aussi, on est heureux de vous entendre. Je dis de vous entendre parce que vous êtes avec nous en distanciel, connecté, ça. Mais ça vous maîtrisez. Hein. Connexion, c'est le nom du spectacle virtuel numérique que vous aviez lancé à Noël dernier, show interactif, inédit mais rendu possible grâce à l'application Zoom. Et je crois que, enfin j'en suis même sûr, pour la dernière, mardi soir prochain, le 27 avril, Connexion sera diffusée en direct sur Gulli à partir de 21h05. Ça veut dire que vous voulez clore en beauté cette expérience unique qui était ce spectacle interactif à distance.
Exactement, Vincent. Je me sens très très chanceux parce que pendant cette période de confinement où aucun de mes copains n'a pu être sur scène et puis tout aussi les équipes. Moi, j'ai une dizaine d'intermittents du spectacle qui travaillent à plein temps depuis le mois de décembre sur ce spectacle, d'avoir joué. D'avoir pu voir comme ça des centaines de milliers de personnes, d'avoir pu partager de la joie, de l'art et de l'offrir sur une chaîne télé à la fin, ça me semble normal parce que c'est une manière en effet de clore en beauté, dans un feu d'artifice de partage ce moment qui était merveilleux malgré les conditions actuelles.
Vous dites privilégié, c'est aussi parce que finalement vous êtes l'un des rares acteurs, humoristes, prestidigitateurs à avoir eu, malgré la situation, la montée d'adrénaline qu'on a sur scène.
Ben oui, c'est vrai que c'est fou parce que ce métier de scène, d'homme de scène, c'est un métier d'intensité. Donc quand on l'a plus, quand on vous dit vous n'avez plus le droit de faire votre métier, parce que c'est ça qu'on nous dit depuis 2 ans quand même, c'est votre vie qui s'efface, c'est votre vie qui s'enfuit. Et il y a peu de moments aussi intenses dans la vie que le fait de monter sur scène et de partager son cœur, son âme, son travail, sa pensée. C'est des moments très rares. Mmh. Et c'est quand même notre quête d'artiste que de vivre ces moments et surtout de les partager. Donc là, le fait d'avoir créé ce spectacle au croisement de l'humour et de la magie, dans cette ambiance digitale, sur cette plateforme Zoom, de voir comme ça tous les familles qui viennent se connecter à mon spectacle, de partager avec eux, de faire un avant et un après spectacle où on danse ensemble, on chante ensemble et tout. C'est merveilleux. Donc oui, ça, je me sens très privilégié. Et je pense que ma chance, c'est le croisement des arts, c'est-à-dire que la magie, pour le coup, s'adapte plutôt bien à ce média digital, parce que le fait que de faire de la magie avec des objets qui sont dans les maisons des gens, donc que je ne peux toucher, et que eux puissent interagir sur les objets qui soient chez moi, bah finalement, c'est même presque plus fort encore qu'un spectacle normal.
Alors justement, avant de le voir mardi soir à la télé sur Gulli, dites-nous quand même comment ça se passe dans Connexion. Vous nous dites que vous demandez à des spectateurs de sélectionner des objets. Comment vous faites pour interagir à distance avec, je crois, 1000 spectateurs?
C'est ça, c'est 1000 familles, donc 1000 c'est familles. 4000, 5000 spectateurs. Ouais. Heureusement, il y a cette application Zoom. On peut voir jusqu'à 1000 familles que j'ai sur un écran géant qui est derrière moi et qui est tactile aussi, qui me permet de sélectionner une ou deux ou trois familles en même temps avec lesquelles je vais tenter une expérience, ou parfois même un écran entier, c'est-à-dire 50 familles, donc 200, 300 personnes, et qui vont participer au numéro de plusieurs manières différentes, en répondant à mes questions, donc je vais deviner ce qu'ils vont penser, en interagissant sur des objets qui sont chez moi, en buvant à l'air de lait à distance, en jouant par exemple avec des rouleaux de papier toilette qu'on a d'un côté de l'autre, puisque il y a eu un drame quand même, c'est qu'il y a eu pénurie de PQ pendant la première vague, et donc j'apprends à déchirer, à reconstituer du papier toilette. Donc c'est toute cette interactivité-là, elle a lieu comme ça, d'un côté l'autre de l'écran, par le biais de cet écran tactile et par le biais de l'application Zoom. Donc en fait, sur Gulli, il y aura deux types de spectateurs. Il y aura les Zoomers, qui vont de nouveau être là et qui vont construire le spectacle avec moi. Et puis il y aura les téléspectateurs devant leur télévision qui pourront quand même participer à deux expériences conçues pour eux.
Si on est devant sa télé mardi soir, on va quand même pouvoir participer à un tour ou deux, c'est ça?
Oui, absolument. Il y a deux expériences vraiment télévisuelles ou
créées spécialement pour cette soirée.
Ouais, exactement. Et il y a même un inédit mondial, pour tout vous dire, avec mon ami et collègue Yves Doumer, je pense qu'on a une idée que tous les autres magiciens du monde vont nous envier. On envoie une prédiction chez les gens, dans une mallette fermée, cadenassée, et chez des gens dont je ne connais pas, des inconnus. Ouais. Et c'est eux-mêmes qui vont ouvrir la prédiction devant tous les milliers de zoomers et les centaines de milliers de téléspectateurs. Donc c'est la première fois que ce n'est pas un magicien, cette fois-ci, qui ouvre la prédiction. C'est toujours eux qui dévoilent,
qui
ouvrent le coffre. Ouais. Et là, cette fois-ci, c'est l'inverse.
Ouais. Alors évidemment, on va découvrir ça. Éric, Antoine, on sait que vous aimez bien taquiner les gens. Vous êtes assez chambreur. Hein. Oui. Vous pouvez les chambrer à distance? C'est aussi facile que dans une salle?
Alors, c'est quand même un peu différent. Je sens qu'il faut que je sois plus bienveillant. Mais c'est même la différence entre la salle et la télé. Mmh. C'est-à-dire, j'ai toujours remarqué ça. C'est-à-dire qu'en salle, les gens viennent te voir et ils viennent chez toi quelque part. Ouais. Et donc, ils sont tes invités. Et donc, tu es à la maison. Donc tu peux te comporter comme tu es à la maison, c'est-à-dire t'es un peu plus libre. Quand tu es à la télévision ou sur Zoom aussi, tu rentres chez eux. Et moi, quand je rentre chez quelqu'un, je fous pas les pieds sur la table tout de suite. Je suis plus un tout petit peu plus élégant. En tout cas, j'essaye d'être élégant aussi à la maison, mais disons que je suis plus libre à la maison. Et donc, je crois que ça demande plus de bienveillance. En fait, la bienveillance est importante quand on est à distance. On peut se permettre d'être un petit peu plus taquin quand on est en proximité. Parce que on est en proximité, les gens peuvent répondre et donc se défendre et te renvoyer la balle. Et donc le combat est plus juste. Quand les gens sont à distance, je trouve que c'est important d'être bienveillant parce qu'il faut laisser la possibilité de répondre aux gens.
Donc mardi soir, si on n'est pas inscrit, si on n'a pas acheté son billet comme les familles, on ne sera pas seulement spectateur.
On sera téléspectateur, spectateur d'un spectacle en direct, ça c'est très important avec tout ce que ça sous-entend de transpiration du direct, parce que la magie c'est de la jonglerie, il y a de temps en temps une balle qui tombe, on n'a pas envie que ça arrive en direct, et il y a en effet fête de numéros où les téléspectateurs pourront participer et vraiment le vivre aussi chez eux physiquement.
Est-ce qu'on peut dire, Éric, Antoine, qu'il y aura pour vous en tout cas un avant et un après connexion? C'est-à-dire que le numérique, le digital, va peut-être dans l'avenir quand même être utilisé dans vos spectacles?
Certainement. Alors, je pense que j'ai été le premier magicien à faire des prédictions sur les réseaux sociaux. Il y a 5 ans dans Magic Delirium. Là, je suis l'humoriste magicien. En fait, je crois être, à ma connaissance, l'artiste francophone qui a fait le plus de dates digitales, et peut-être même un des seuls qui a fait une vraie programmation longue de spectacle. Donc oui, c'est un outil qui m'interpelle. Je crois que je suis sans doute addict au public et je ne pouvais pas ne pas jouer. Je crois que ça m'était absolument impossible. Pour le futur, je réfléchis à des formes hybrides. Parce que la scène, le fait de sentir les gens respirer en même temps que toi, d'être ensemble dans la même pièce, de rire ensemble, ce souffle qui est le rire, on ne peut pas le remplacer sur l'outil digital, c'est pas possible.
Alors on entend votre soif, votre envie de retrouver une salle. C'est pas pour immédiatement, même si on commence à parler de réouverture avec des jauges plus ou moins importantes. Vous avez une idée, vous ?
On espère, on croise les doigts, on a prévu d'être aux Folies Bergères pendant tout le mois de décembre et le mois de janvier. Mais le souci, c'est pour être tout à fait clair, c'est que nous, pour qu'on ne perde pas d'argent, on a un taux de remplissage à 85%. Donc, c'est-à-dire qu'une salle qui est ouverte avec la distanciation sociale nous empêche de jouer, par définition. Et en plus, on est obligé d'ouvrir une billetterie, comme c'est des enjeux financiers qui sont très importants, avec 25 personnes, 25 employés, c'est assez lourd. On est obligé d'ouvrir une billetterie 3, 4, 5 mois en avance pour être sûr d'avoir suffisamment de gens pour pouvoir survivre en fait pendant la période. Donc on est évidemment très inquiet, mais dans ma nature optimiste, pour le moment, on a gardé les dates ouvertes, la billetterie est ouverte et on est prêt, on sera prêt à jouer ce spectacle pour le mois de décembre à Paris et un peu avant en tournée.
Et quoi qu'il en soit, Connexion mardi soir, ce sera la dernière ou on peut imaginer une suite?
Alors, c'est la dernière de ce spectacle. Ouais. Ce sera une soirée exceptionnelle. Et en revanche, d'habitude, quand t'écris, t'as toujours plein d'autres idées que celles que tu écris. C'est vrai que j'ai une idée d'un autre spectacle digital, peut-être l'hiver prochain, si les salles ne réouvrent pas.
Bon, ça sera au moins ça, j'ai envie de dire, au moins ça. Vous êtes le champion de la prédiction, donc vous allez nous prédire une audience de malades mardi soir sur Gulli.
C'est une chaîne de la TNT, donc c'est vrai que c'est pas les mêmes audiences que j'ai sur M6 dans mes émissions, mais je trouve ça très joli aussi parce que c'est un public que j'affectionne terriblement,
les
public
enfants
familial.
Et
les jeunes. Ben, c'est transgénérationnel. Ce que j'aime, c'est quand les parents et les enfants viennent voir et me disent en même temps, on a adoré, parce que les enfants vont être très sensibles à la magie, au côté merveilleux de la magie. Et les parents vont être très sensibles au discours, au jeu de mots, au second degré, à l'humour, aux références culturelles. Et j'aime toujours écrire, évidemment, sur ces degrés. Mmh. Et donc, j'écris vraiment... En fait, toute ma vie, j'ai écrit plus pour un public adulte. Et les enfants ont adoré que je leur parle comme à des adultes aussi. Mmh. Je crois que c'est ça aussi qui fait que ça passe bien du côté des enfants.
Ben, c'est sûr. Et on adore vous entendre rire aux éclats, hein, évidemment. Ouais. C'est une de vos marque de fabrique, Éric Antoine. Merci beaucoup. On sera évidemment devant la télé, en direct sur Gulli à partir de 21h05 mardi prochain pour la dernière de Connexion, mais peut-être pas la dernière, peut-être un spectacle bis qui pourrait voir le jour.
Oui, je pense que ce sera un autre spectacle. Ce sera la dernière irrévocable de Connexion, mais le démarrage d'une autre aventure, d'une autre pensée.
Évidemment, on est avec vous et on sera avec vous mardi soir. Merci beaucoup Éric-Antoine d'avoir été sur RTL.
Merci beaucoup Vincent. Merci de votre accueil.
Et dans un instant, eh bien, ce sera la semaine d'Éric Brunet avec Dupont-Moretti et la Super League au programme notamment. Et puis ensuite, le journal, évidemment, on va faire un nouveau point sur cette attaque sans doute terroriste qui a coûté la vie à une policière cet après-midi au commissariat de Rambouillet. À tout de suite.
RTL Soir. Vincent Parisot, RTL Soir.
Chaque vendredi soir, on accueille Éric Brunet pour refaire la semaine. C'est la semaine d'Éric Brunet. Bonsoir Éric.
Bonsoir Vincent.
Et cette semaine, vous avez noté que le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a sévèrement étrié dans les médias Xavier Bertrand et Marine Le Pen.
Oui, qui sont, comme par hasard aujourd'hui, selon les sondeurs, les principaux rivaux d'Emmanuel Macron pour la présidentielle. Alors, à Xavier Bertrand, qui voulait instaurer une peine de prison automatique d'un an pour toute personne s'attaquant à un policier, à un pompier ou à un maire, Dupont-Moretti a répondu personne n'acceptera de substituer le principe de la justice à la logique de la rafle. Mmh. Ça envoie du bois. Hein. Mmh. Il associe quand même Xavier Bertrand à la notion de rafle, tout ça dans l'imaginaire collectif, ça fait un peu Vichy, bref, ça envoie du bois. Mmh. Mercredi sur RTL, Éric Dupond-Moretti a également répondu à Marine Le Pen. Elle lui avait souhaité pour son anniversaire de reprendre sa profession d'avocat et de ne plus être ministre. Acquittator a expliqué qu'elle était mauvaise, quoi, qu'elle était nulle, et il lui a conseillé en retour de reprendre ses études de droit vu qu'elle en aura le temps à partir de 2022. Et ben ça y est, Macron a trouvé son porte-flingue pour 2022. Mitterrand avait Bernard Tapie, Sarkozy avait Brice Hortefeux, François Hollande avait Stéphane Le Foll, et bien Macron, lui, a Éric Dupond-Moretti comme flingueur en chef. Dans la vie politique française, il y a deux profils d'hommes politiques. Il y a le profil énarque et le profil avocat. Évidemment, ce sont des images. Hein. L'énarque n'est pas forcément passé par l'ENA, et l'avocat n'est pas forcément inscrit au barreau. Mais le type énarque, c'est le techno-brillant qui maîtrise les dossiers, mais qui a un problème avec le peuple. C'est genre Fabius, Juppé, Giscard, Lagarde, Le Maire. Et puis le type avocat, c'est ceux qui sont un peu tribuns, débatteurs aguerris, qui ont du charisme. C'est les profils Sarkozy, Mélenchon, Marine Le Pen. Alors autour de Macron, il y a pléthore d'énarques, mais il y a peu d'avocats. Et Dupond-Moretti va rééquilibrer la balance. Il vient du peuple, il chasse, il a une image de grande gueule, un côté un peu audiardesque. Eh bien, il n'aura pas peur d'aller au charbon. Donc, je le redis, Dupond-Moretti est à peu près celui qui va devenir, à mon avis, le porte-flingue numéro 1 du président pour 2022.
Et alors, le porte-parole du gouvernement, tiens d'ailleurs, Gabriel Attal, vous le mettez plutôt dans la catégorie énarque. Hein,
oui, énarque, voilà, profil bon. Énarque. Oui.
Bon, en tout cas, il a réagi à la décision de la Cour de cassation dans l'affaire Sarah Halimi en estimant que, je le cite, la drogue ne peut pas être un permis de tuer.
Bah oui, la semaine dernière, la Cour de casse a confirmé que l'assassin de Sarah Halimi n'était pas pénalement responsable de ses actes. Il ne sera donc jamais jugé par une cour d'assises. Et la famille de la victime ne pourra pas avoir le procès qu'elle attendait. Revenons sur les faits. Le 4 avril 2017, Kobili Traoré, un délinquant multirécidiviste, condamné à une vingtaine de reprises, fait irruption chez sa voisine de 65 ans, Sarah Halimi, au cri d'Allah Akbar. Il la roue de coups durant près d'une heure en récitant des versets du Coran avant de la jeter par-dessus le balcon de leur HLM de Belleville. Selon les experts psychiatriques, au moment du meurtre, Traoré était en proie à une bouffée délirante aiguë. Le meurtrier se serait senti oppressé après avoir vu chez Sarah Halimi une Torah et un chandelier à sept branches. Alors oui, on ne juge pas les fous en France, c'est l'honneur de notre justice. Mais Traoré ne souffre d'aucune pathologie mentale ou psychique et cette bouffée délirante qui l'a poussé à tuer résulterait selon les experts de la consommation de cannabis. Du coup, on en arrive à un paradoxe. Dans le meurtre de Sarah Halimi, la prise de cannabis exonère son assassin d'un procès. Alors que dans le cas d'un accident de la route, hein, la prise d'alcool ou bien les stupéfiants est considérée là comme une circonstance aggravante. Mmh. Alors, autant vous le dire, cette décision de justice me révolte.
Oui, on l'a bien compris. Alors, mardi, ça aussi vous l'avez noté, ce mandat d'arrêt international lancé à l'encontre de Rémi Daillet dans le cadre de l'enlèvement de la petite Mia.
Ben oui, pour enlever la petite fille, les cinq hommes mis en examen se sont fait passer pour des représentants de la protection de l'enfance. Les ravisseurs de Mia appartiennent à la mouvance complotiste. Ils dénoncent le placement des enfants sous décision judiciaire et appellent à les libérer de la pédocriminalité d'État. Selon le juge chargé de l'affaire, il y a un gourou derrière tout ça qui a joué un rôle important, c'est Rémi Daillet. C'est le fils de l'ancien député UDF de la Manche, Jean-Marie Daillet. Et il était lui-même responsable du Modem en Haute-Garonne. Il a été exclu en 2010 du parti par François Bayrou. Il s'est exilé avec sa famille en Malaisie. En vrac, ce Rémi Daillet appelle au renversement du gouvernement avec l'aide de l'armée. Il se compare au général de Gaulle. Il a publié un programme politique de 81 mesures qui comprend, écoutez bien, la mise en examen de tous les ministres depuis 1981, l'annulation des amendes, l'abolition des impôts, l'interdiction de la vaccination et la fin des placements abusifs d'enfants. J'en passe, c'est des meilleurs. C'est un peu l'équivalent des QAnon américains, ces complotistes convaincus que les USA sont dirigés par une élite pédocriminelle et qui appellent à renverser cette élite par un coup d'État militaire. Depuis le 11 septembre, le complotisme fait tellement de ravages en France qu'on a tendance à utiliser ce mot dès qu'on veut discréditer, par exemple, un journaliste ou un chercheur qui remettrait en cause une version ou une thèse établie. Ce qui est terrible, Vincent, oui, c'est que dans la vraie vie, il y en a quand même des vrais complots. Récemment, Récemment, une journaliste du Monde, Florence de Changy, a publié un livre de 500 pages où elle émet une nouvelle hypothèse sur la mystérieuse disparition du vol de la Malaysian Airlines, le fameux MH370. Selon elle, l'avion pourrait avoir été abattu par l'armée américaine. Là où ça se complique, c'est que justement dans la vraie vie, le complotisme est une attitude politique débile. Mmh. Et pourtant, des complots, il y en a toujours eu. Et il y en aura toujours.
Ouais. Mercredi, le patron du Real Madrid a annoncé que le projet de Super League était en stand-by.
Et oui, les 12 clubs de foot qui voulaient s'émanciper de la Ligue des Champions en créant un championnat fermé, la Super League, ont finalement fait machine arrière. 48 heures après l'annonce, Manchester City, suivi par les clubs anglais, a décidé de se retirer du projet face à la colère du public. Comme une écrasante majorité de Français, j'étais opposé au projet de Super League. J'aime pas l'idée d'une ligue fermée, réservée aux clubs, au plus gros budget, et d'où sont exclus les plus méritants. Pourquoi Arsenal, Tottenham, Manchester City et l'Atlético auraient leur place attitrée dans cette ligue alors qu'ils n'ont jamais gagné une seule Ligue des Champions? Et pourquoi il n'y a pas l'Ajax qui en a gagné 4 ou Porto qui a gagné à lui seul plus de Coupes d'Europe que tous les clubs français réunis? Dans le foot, c'est le seul sport où sur un match, la meilleure équipe du monde peut perdre contre des tocards. Et de voir le Steaua Bucarest battre le Barça en finale de la Ligue des Champions en 86 ou bien Ipswich, tout petit club anglais de campagne, ouais, qui remporte la Coupe de l'UEFA en 1981, c'est un vrai bonheur. Ou en 2012, tiens, quand le club chypriote d'Apoel atteint les quarts de finale de la Champions League en éliminant Lyon au tir au but, c'est des moments magiques. Moi, je veux retrouver, Vincent, l'esprit des Coupes d'Europe d'antan, avec les grands clubs qui se déplacent au fin fond de la Moldavie ou de l'Albanie pour jouer sur des champs de patates. C'est ça, l'esprit du foot.
Cet esprit du foot, il existe encore avec la Coupe de France.
C'est vrai.
Ouais. Qu'on nous la laisse.
Je suis d'accord.
Merci et à la semaine prochaine. Il est 18h57. Dans un instant, évidemment, les infos avec Alexandre de Saint-Aignan. Et bien sûr, on va revenir sur l'attaque mortelle et sans doute terroriste du commissariat tout à l'heure à Rambouillet.
RTL Soir.
Il est tout pile 19h.
Vincent Parisot, RTL Soir.
Et Alexandre de Saint-Aignan pour le journal. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Vincent, bonsoir à tous.
Renforcement de la sécurité devant les commissariats et devant les gendarmeries.
C'est la promesse du ministre de l'Intérieur. Quelques heures après une attaque qualifiée de terroriste, une policière a été tuée au commissariat de Rambouillet. Dans l'actualité également, le décollage de la fusée de Thomas Pesquet, vue depuis la Cité de l'Espace à Toulouse. Et puis grand soleil jusqu'à 23 degrés à Brest, dans le Finistère, transformé cet après-midi en station balnéaire.
Ah ben oui, c'est le bonheur. On a la plage à côté de la ville. On a le grand air. Qu'est-ce qu'il faut demander de plus? C'est le paradis.
Point complet sur la météo à la fin du journal.
RTL Soir.
Après le double meurtre de Magnanville en 2016, l'assassinat de Samuel Paty en octobre dernier, les Yvelines, une troisième fois endeuillées par le terrorisme. Un homme a tué une policière à coups de couteau cet après-midi à l'intérieur d'un commissariat de Rambouillet. Bonsoir Mourad Djabari.
Bonsoir.
Vous êtes sur place pour RTL et les riverains sont sous le choc.
Oui, forcément. Et très vite, ils sont venus se masser sur ce cordon de sécurité qui encercle ce commissariat, posé dans un quartier pavillonnaire, tranquille et paisible. Jacqueline habite au bout de la rue, la peur au ventre. Elle a accouru pour avoir des nouvelles de son ami.
Je suis abasourdie qu'à deux pas de chez moi, dans une petite ville comme Rambouillet, moi je connais le commissariat, que la personne ait attaqué cette autre personne qui se trouvait dans le sas. Moi, ma présence ici, c'est de savoir si c'était mon amie Rose ou pas. Comme j'ai une amie intime qui y travaille, j'ai eu peur que ce soit elle.
Et Jacqueline n'était pas la seule cet après-midi à faire face à l'horreur, l'horrible attente. Plusieurs habitants des voisins du commissariat sont venus ici pour avoir des nouvelles de leurs proches. Michel est resté pendant plusieurs heures sans nouvelles de sa femme qui travaille à l'accueil du commissariat.
Je ne savais pas si elle travaillait aujourd'hui, donc vous imaginez l'angoisse, d'autant qu'elle travaille en partie à l'accueil. Donc j'ai su que c'était pas elle, donc ce qui est effectivement à titre personnel un soulagement, mais fondamentalement ma compagne est une amie de la femme qui était assassinée. Quoi, c'est terrifiant, c'est juste terrifiant. J'arrive pas à parler tellement ça me fout les boules.
Soulagé mais meurtri, il a perdu Stéphanie, une amie, la collègue de son épouse, lardée de coups de couteau et mère de deux enfants.
Mourad Jabari dans les Yvelines pour RTL.
Alors, l'assaillant n'était pas connu des services de police, mais les enquêteurs tentent de retracer son parcours maintenant.
Oui, le parquet national antiterroriste a été saisi. Bonsoir Guillaume Chiez.
Bonsoir.
Du service police-justice de RTL. Les perquisitions se poursuivent ce soir.
Oui, elles ont commencé il y a 2 heures environ. Cet homme de 37 ans vivait également sur la commune de Rambouillet, à 4 km du commissariat. Et les enquêteurs sont à la recherche de tout élément qui pourrait expliquer son passage à l'acte. Ce que l'on sait ce soir, c'est que cet homme, un Tunisien arrivé en France en 2009 et régularisé en 2019, a d'abord procédé à un repérage des lieux. Il a ensuite attendu qu'une personne entre dans le commissariat pour mener son attaque. 14h20, sa victime, une fonctionnaire administrative, revient de sa pause déjeuner. Il profite de l'ouverture du sas pour s'y introduire, lui porter 2 coups de couteau au niveau de la gorge. Les policiers qui sont présents sur place répliquent, abattent l'assaillant. Le procureur évoque également des propos tenus au moment des faits. Il aurait crié « Allah Akbar ». Tout ce modus operandi fait que cette attaque est considérée ce soir comme un acte terroriste.
Guillaume Chiez du service police-justice de RTL. Et justement, dans un tweet, Emmanuel Macron promet de ne rien céder au terrorisme islamiste. Par ailleurs, dans un télégramme adressé au préfet, le ministre de l'Intérieur les appelle à renforcer la vigilance et les mesures de sécurité aux abords des commissariats de police et des brigades de gendarmerie, notamment s'agissant des accueils.
La mère de Mia a été présentée à un juge d'instruction cet après-midi.
Accusée d'avoir commandité l'enlèvement de la fillette qu'elle n'avait pas le droit de voir seule, elle avait été extradée ce matin depuis la Suisse. 4 hommes sont en détention dans cette affaire. Un mandat d'arrêt international a par ailleurs été lancé contre Rémi Daïev Widman, cette figure du mouvement complotiste vivant en Malaisie, d'où il pourrait avoir contribué à organiser le kidnapping.
Il tourne autour de nous.
Hein, autour de la Terre.
Voilà, oui, autour de la Terre. Il est dans l'espace. C'est vrai qu'on a retenu notre souffle un petit peu avant midi.
Hein. Oui, décollage réussi pour l'astronaute français Thomas Pesquet. La fusée SpaceX s'est envolée depuis Cap Canaveral en Floride, direction la Station Spatiale Internationale. Une émotion toute particulière à Toulouse, à la Cité de l'Espace, Patrick Hisson.
Oui, nous voici à quelques instants du décollage commenté par Philippe Dronneau de la Cité de l'Espace.
Alors voilà, là on vérifie les moteurs. Si ça part, c'est que c'est bon. C'est parti. Voilà.
Le public est souvent très ému et ravi d'avoir vécu ce moment. C'est le cas de l'astronaute Philippe Perrin.
Bonheur, sérénité, plénitude. On ne peut pas être astronaute sans revivre ces moments-là. Je me suis laissé prendre finalement au jeu. Je pensais être de marbre et puis j'étais comme un gamin. Parce que c'est du temps réel, ça c'est pour de vrai, c'est pas un film.
Pour les scientifiques, c'est également un soulagement, car de très nombreuses expériences menées par la mission Alpha seront pilotées à Toulouse. Mais avant de travailler, Thomas Pesquet a encore quelques heures devant lui pour profiter d'un spectacle toujours fascinant depuis les hublots du vaisseau. L'astronaute Claudie Aigneret ne l'oubliera jamais.
On voit effectivement ce cosmos noir et puis cette Terre avec ses couleurs, avec sa fine pellicule d'atmosphère, avec les traces de vie, les lumières des villes, les phénomènes naturels sur la planète. C'est quelque chose de magique et de merveilleux. On ne peut pas s'en lasser.
Un reportage signé Patrick Hisson à Toulouse pour RTL. Le vol est prévu pour durer plus de 23 heures. L'arrimage du vaisseau à la Station Spatiale Internationale est donc prévu pour demain 11h10.
Le vaccin AstraZeneca, plus efficace chez les personnes âgées.
Confirmation de l'Agence européenne des médicaments. Les bénéfices augmentent avec l'âge et ils sont toujours bien supérieurs au risque très rare de thrombose. En France, l'Agence du médicament rapporte 5 nouveaux cas de caillots sanguins. Parmi ces derniers cas, aucun n'a été mortel. À Paris, plusieurs milliers de personnes, en majorité des intermittents du spectacle, ont manifesté contre la réforme de l'assurance chômage cet après-midi. Dans le cortège, Céline était guide touristique international, mais ça c'était avant la crise sanitaire. Désormais, elle est sans emploi.
J'ai écrit qui veut noyer son chômeur, hein, l'accuse d'avoir la flemme, hein, en rapport avec le célèbre dicton qui veut noyer son chien, l'accuse d'avoir la rage. On accuse les chômeurs de ne pas vouloir trouver de travail, faudrait-il qu'il y en ait du travail pour qu'on le prenne. Cette réforme, elle est censée m'inciter à trouver un contrat de travail plus long. Mais monsieur, mais moi, mon employeur ne me donnait pas de contrat de travail plus long. C'est comme ça. Je travaillais à la mission, des missions de 3 semaines. Je ne peux pas en inventer d'autres. C'est celle qu'il y a. Moi, je prenais tout ce qu'il y avait comme travail. Donc aujourd'hui, il n'y en a plus. Mon employeur a disparu. Mon métier a disparu avec la crise. Et aujourd'hui, il faut que je me reconvertisse. Et je n'ai aucune aide pour le faire. Donc je suis contrainte d'accepter tous les travaux alimentaires qui vont se présenter, y compris payés en dessous du SMIC.
Des propos recueillis par Benjamin Boucriche pour RTL.
Allez, courte pause et dans un instant, un sondage. Emmanuel Macron droit dans ses bottes, y compris le pied gauche.
RTL Soir.
Vincent Parisot, RTL Soir.
Et Alexandre de Saint-Aignan pour la suite du journal. Et donc 61% des Français qui exclut de voter pour Emmanuel Macron au premier tour de la prochaine présidentielle.
Selon un sondage BVA pour RTL, c'est un mauvais président pour 6 Français sur 10. Sa cote de popularité est pourtant supérieure à celle de ses prédécesseurs à moins d'un an désormais du scrutin. Le chef de l'État conserve même un socle électoral solide parmi ceux qui seraient prêts à revoter pour lui l'an prochain. Alors ses soutiens évidemment, mais aussi, plus surprenant, des sympathisants de gauche. Vous en avez rencontré en Seine-Saint-Denis, Julien Fautra.
Absolument, un électorat social-démocrate, déjà l'une des mouvances devenues traditionnelles de la gauche, et puis certains qui se qualifient de pragmatiques, comme Daniel.
Même dès le premier tour, je serais capable de voter pour Macron, même si je lui fais de très gros reproches. J'ai plutôt des convictions de gauche, je suis aussi très pragmatique en matière électorale. Pour moi, il y a des gens pour qui il ne faut pas voter, il ne faut pas leur donner la chance d'être élu. Donc face à ça, je me bouche pas le nez, je fais un choix le plus pragmatique au moment de voter.
La popularité du chef de l'État est élevée dans deux tranches d'âge, les plus jeunes électeurs, moins de 25 ans, et les moins jeunes. Écoutons donc Arthur et Marie, 24 et 90 ans.
Si rien ne se présente, je pense que je continuerai à aller dans le sens qu'il y a aujourd'hui, parce que c'est pas non plus le pire président qu'on ait pu avoir.
Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place, hein, avec tout ce qui lui est tombé dessus? Il a eu vraiment beaucoup de tracas, c'est pas possible.
Certains électeurs également, comme Jocelyne, ont acté l'idée qu'il leur faudrait faire barrage au Rassemblement National et à Marine Le Pen.
C'est aussi peut-être pour ne pas voter Madame Le Pen. Ce ne serait pas pour lui précisément, ce serait contre Madame Le Pen.
Faute donc d'alternatives qu'il juge crédibles, des électeurs qui déclarent aussi très régulièrement être aujourd'hui dans le flou, un clivage gauche-droite brouillé qui profite au chef de l'État.
Un reportage signé Julien Fautra en Seine-Saint-Denis pour RTL.
Voilà, Emmanuel Macron qui séduit encore la gauche modérée. On en parlera tout à l'heure, dans quelques minutes, dans Le Monde tel qu'il est, avec nos polémistes.
À l'étranger, Alexeï Navalny met un terme à sa grève de la faim. L'opposant russe, principal adversaire de Vladimir Poutine, est emprisonné depuis 3 semaines. Il proteste contre ses conditions de détention. Ce sont ses médecins qui l'ont demandé d'arrêter, craignant pour sa vie.
On est à moins de 2 mois de l'Euro de football et il y a un changement de programme.
L'UEFA a annoncé tout à l'heure que 2 villes n'accueilleront finalement pas les rencontres. Il s'agit de Bilbao en Espagne et de Dublin en Irlande. Un scénario qui risque de désavantager les Bleus, Nicolas Georgerot.
Oui, c'est un casse-tête et c'est un jeu de chaises musicales. Bilbao et Dublin hors circuit. Eh bien, les rencontres prévues au Pays Basque espagnol se dérouleront finalement à Séville, alors que celles initialement programmées dans la capitale irlandaise ont été déplacées à 2 endroits, à Saint-Pétersbourg et à Londres pour le 8e de finale. La Fédération française et le staff des Bleus avaient un œil attentif sur la situation, car il y a un scénario possible. Si l'équipe de France termine 2e de son groupe, elle a le risque d'affronter l'Angleterre, mais au lieu de Dublin, ce sera donc à Wembley en 8e de finale devant 25 000 spectateurs. Munich de son côté a été confirmé. Les Bleus joueront donc leur premier match Allemagne-France en Bavière devant 15 000 personnes environ. La deuxième rencontre France-Hongrie à Budapest dans un stade rempli à 100%, plus de 60 000 spectateurs. Quant aux billets, les personnes qui en avaient pour Bilbao et Dublin seront automatiquement remboursées, a dit l'UEFA, et elles seront prioritaires prochainement pour acheter des places dans les nouvelles destinations.
Nicolas Georgerot pour RTL.
Dites Alexandre, on a quand même eu un petit avant-goût de l'été hein, cet après-midi sur une bonne partie du pays.
Oui, c'est vrai, on dit en avril, ne te découvre pas d'un film, et pourtant, le retour des beaux jours se confirme avec 25 degrés à Bordeaux par exemple cet après-midi, mais il n'y a pas que dans le sud-ouest hein, qu'il a fait beau et chaud, du grand soleil et une douceur exceptionnelle aussi en Bretagne, avec plus de 24 degrés à Brest, Nicolas Bobby.
Comme en plein été, la plage du Moulin Blanc a été prise d'assaut par les Brestois.
On marche dans l'eau. Ah ben oui, c'est le bonheur. On a la plage à côté de la ville, on a le grand air. Qu'est-ce qu'il faut demander de plus? C'est le paradis.
Torse nu, sur les serviettes, c'était la séquence bronzage après la baignade.
C'est génial quand même. La preuve, ça fait une semaine qu'on va se baigner, donc c'est génial. Plus jamais chez nous. Elle est très bonne. Ouais, ça fait du bien. À Charlie.
Ça fait du bien. Mais après, on s'est habitué. Après, elle était chaude, donc c'était bien.
Pour les ados, c'était le bonheur.
Clairement, on est confinés au paradis.
On fait une bataille d'eau avec des pistolets.
Ouais, on a à Brest, c'est vrai. C'est pas comment.
Il faisait presque trop beau.
On voudrait un peu de pluie pour les jardins. Là, ça va, hein. On profite du soleil.
Dans la rade, le ballet des petits voiliers complétait la carte postale.
Ben voilà, une très belle journée, Nicolas Bobby pour RTL.
Et c'est pas fini, tenez-vous bien, c'est parce que mais là, évidemment, on va voir ça avec Valérie Quintin. Valérie, pour ce week-end, beau temps à tous les étages, ou presque?
Oui, quasiment. Et puis c'est encore à l'ouest, de toute façon, qu'il fera le plus chaud, comme aujourd'hui. Demain après-midi, on attend 27 degrés à Bordeaux, comme à Angoulême. Il fera 25 degrés à Limoges, 24 à Mâcon, 22 à Montpellier, 21 degrés dans la capitale, 19 à Nancy, 18 à Honfleur. Un ciel parfaitement bien dégagé, juste un petit peu plus de nuages en fin de journée sur les Alpes et sur les Pyrénées. Et ce sera à peu près la même chose pour la journée de dimanche, avec des températures qui vont baisser un petit peu, mais on gardera une moyenne de 19 à 20 degrés sur la moitié nord et de 22 à 23 pour la moitié sud.
Eh bien, merci. Voilà de quoi s'offrir une petite balade sur la plage.
Il y a un an, il y a un siècle,
c'est avec vous, Edvernouchio, bonsoir.
Bonsoir Vincent.
Il y a un an, il y a un siècle, on revient sur la date du jour, on remonte le temps, c'est le droit de suite d'RTL évidemment. Alors nous sommes le 23 avril, et ce 23 avril, en 1853, on célébrait la naissance d'un Français qui va révolutionner la police scientifique.
Connaissez le générique?
Je sais pas, c'est les experts. RIS. Je regarde
tout
pas celui-là.
Tout ça pour vous parler d'un certain Alphonse Bertillon qui entre.
Ouais. Il n'a pas fait que des glaces, lui, alors.
Non, effectivement pas. Il entre à 26 ans, lui, à la préfecture de police de Paris, commis aux écritures, puis photographe. En 1882, il met au point un système d'identification des délinquants d'après 14 mensurations, comme la taille, la longueur de la tête, la dimension de l'oreille, puis des photos, profil, face. On la surnommera le Bertillonnage. Il n'y a qu'une chance sur 286 millions pour qu'une autre personne partage les mêmes mensurations, technique exportée ensuite dans le monde entier.
Alors, bien plus tard, hein, plus d'un siècle après, le 23 avril 1965, Peugeot présente un tout nouveau modèle de voiture.
Si je vous dis berline de taille moyenne, et elle est même conduite par les gendarmes à la fin des années 60.
On l'attendait depuis longtemps, elle vient de montrer le bout de son nez. Direction à crémaillère, embrayage à commande hydraulique, la 204 Peugeot, la nouvelle née des voitures françaises, offre le maximum de volume habitable pour un faible encombrement extérieur.
La 204. Alors, version cabriolet, c'est encore la classe aujourd'hui.
Produite à partir de 1965, Vincent, elle est la voiture la plus vendue en France jusqu'en 1971.
Allez, on s'intéresse maintenant à un record. Là, on parle musique et on est le 23 avril 1988.
Ce jour-là, Whitney Houston arrive au sommet du Billboard numéro 1 pour la 7e fois consécutive. C'est pas la plus connue de ses chansons,
non,
c'est
voilà,
vrai.
J'avoue que là...
Where Do Broken Hearts Go, une chanson qu'elle détestait hein, d'ailleurs. Ouais. Mais grâce à elle, elle bat le record tenu par les Beatles et par les Bee Gees, numéro 1, 7 fois.
Bon voilà, évidemment, pensez pour Whitney Houston. On part maintenant en 2013 pour célébrer le mariage.
C'est en 23 avril qu'est votée en France la loi sur le mariage pour tous. Cri de joie à l'Assemblée nationale autour de la garde des Sceaux, Christiane Taubira.
331... contre 225.
Un mois plus tard, le 29 mai 2013, le premier mariage entre deux hommes est célébré à Montpellier, entre Vincent Autain et Bruno Boileau.
Allez, on termine ce voyage, Aude, ce voyage dans le temps évidemment, le 23 avril 2005, avec une innovation qui va changer la face d'Internet.
Première vidéo, toute première, mise en ligne sur le site YouTube à 20h31 précise, heure américaine.
All right, so here we are, one of the elephants.
Une petite vidéo de 18 secondes, un clip où l'un des fondateur du site, Jawed Karim, se promène au zoo de San Diego devant l'enclos des éléphants.
Et depuis alors, Aude ?
Ah bien, le site est devenu une référence, une banque mondiale de vidéos en ligne. La même année, en 2005, la pub Nike dépasse le million de vues. C'est là que Google flaire bizarrement la bonne affaire et rachète le site. Vers 2008, un nouveau métier fait son apparition, les youtubeurs.
Les youtubeurs, voilà.
Comme le français Rémi Gaillard au départ.
Ah bah oui, Rémi Gaillard, celui qui fait un peu n'importe quoi mais qui fait rire tout le monde.
On l'adorait.
Voilà, et ben YouTube, on en reparlera évidemment, et vous, on vous retrouvera lundi.
Tout à fait.
Lundi, alors. Ce qu'on va faire, c'est marquer une courte pause et puis... accueillir nos débatteurs pour le monde tel qu'il est. Elsa Grangier, Roselyne Fèvre, Jean-Christophe Buisson, Nicolas Demenac. Au programme, évidemment, la France de nouveau frappée par une attaque terroriste. C'était cet après-midi au commissariat de Rambouillet. Mais aussi la gauche modérée qui continue de soutenir Emmanuel Macron. Au programme, l'étoffe des héros avec Thomas Pesquet qui tourne autour de nous. Et puis, une hypothèse. Alors, elle a été évoquée par Marlène Schiappa qui est favorable. Est-ce que Cyril Hanouna doit présenter le débat de l'entre-deux-tours de la présidentielle? Allez, à tout de suite. RTL Soir.